C'est avec ses enfants de l'école du rock'n'roll qui chantent que le micro pue que débute cette édition toute spéciale de Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Mais cette semaine, exceptionnellement, comme la saison tire un peu à sa fin, on va pas exploiter un mot en particulier, mais on vous a préparé un petit meilleur de. Vous retrouverez donc dans la prochaine heure les coups de cœur de Dans le champ lexical, deuxième saison. Et on débute avec les grandes révélations d'une mascotte.
Allô?
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 Allô? Carl, t'as été jadis une mascotte? Ben, en tant que mascotte, t'as pas toujours reflété qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, mettons, t'as quelques secrets.
Il y a une grande différence entre l'expression que je projetais dans mon costume et qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Donc, oui, quand même, t'as un grand devoir de réserve quand t'es une mascotte. Hein.
Comme quoi, mettons?
Je me souviens de plusieurs choses. Un grand moment de ma carrière de mascotte, c'était un événement à Terrebonne. J'animais des enfants dans une épicerie. Et c'était le jour de la finale de la Coupe du monde de soccer entre l'Italie et la France, il y a quelques années. Et j'avais placé à l'intérieur de mon casque une radio avec des écouteurs. Donc, en animant la mascotte, j'avais des écouteurs et j'écoutais un match de soccer. Chose qui est impossible à voir de l'extérieur, donc. Je n'entendais pas vraiment ce que les gens me disaient. Mais j'avais beaucoup de plaisir parce que je faisais des tatas. Le sourire, ça, faisait tout seul. Et pendant ce temps-là, j'écoutais un événement sportif historique.
Ton équipe a-tu gagné?
Non, on se prenait pour la France. Ça, c'est le fameux match où Zidane a frappé un gars avec sa tête. Donc, on a perdu finalement. Donc, j'étais bien déçu.
Donc, il fallait que tu aies l'air joyeux, pareil, dans ta mascotte.
Mais ce qui est magique, c'est que tu n'as absolument rien à faire pour être magique quand tu es mascotte. Tu peux être complètement en lendemain d'une grande soirée. Tu peux être bougon, fâché. Tu peux faire des visages. Tu peux dévisager les gens. Mais tu as le sourire extérieur qui est là sans effort. Donc, c'est vraiment magique.
Est-ce que, justement, tu t'amusais souvent à dévisager les gens ou à faire des choses secrètement dans ta mascotte?
Oui, bon là, je vais paraître pour le pire être humain du monde, mais je vous assure que je suis vraiment très gentil. Je faisais un gigantesque tournoi de soccer il y a quelques années dans le coin de Québec en tant que mascotte. Et vous savez, c'est la plus grande phobie des mascottes. Un tournoi avec une cinquantaine d'équipes d'environ 9 à 15 ans, c'était pas très amusant. Et je me souviens qu'il y avait un jeune garçon qui était dans son équipe qui m'a fait un peu d'attitude toute la fin de semaine. Il a même lancé des roches au visage alors que j'avais d'autres enfants dans mes bras. Donc, il n'était pas dans mon cœur, ce petit capitaine. Et alors que je marchais sur le site, il m'a croisé entouré de son équipe. Alors, il voulait jouer les gros bras, évidemment. Donc, il a commencé à me pousser avec ses amis et à essayer de je pourrais me faire tomber, me brasser. Et tout ça sur l'œil, sous l'œil amusé des parents, ce que je trouve un peu étrange. Et moi, je reconnaissais l'enfant que je n'aimais pas beaucoup. Et je me suis permis, je l'avoue, là, une bonne vieille, quand même solide, directement sur le nez du gars, qui l'a fait tomber au sol en larmes. Mais évidemment, je suis seul à avoir ce secret, parce que de l'extérieur, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est lever mes deux bras dans les airs et mon grand sourire de mascotte fait le travail. Donc, la maman accourt pour dire « Ah ben non, c'est un accident. C'est, il voulait pas le faire. » Donc, là, je suis... Maintenant, bon, je partage ce secret pour une première fois. Mais ce qui est magique, c'est que t'as même pas... Moi, je suis un très mauvais menteur, mais t'as même pas à faire l'effort de... T'sais. La fausse face, le fait pour toi. C'est absolument splendide.
C'est excellent. Ben, merci, Carl.
Ben, ça fait plaisir.
Jérôme Minière vient de faire apparaître le disque Jérôme Minière danse avec Hélicoptère, un autre disque de son projet parallèle, mais pas vraiment parallèle parce que c'est aussi sa carrière principale, de Hélicoptère, un personnage qu'il s'est inventé et qui a vraiment pris beaucoup de vie de par lui-même. Nous, à Dans le champ lexical, comme on aime ça être en avance sur tout le monde, on a parlé de Hélicoptère avec Jérôme Minière il y a 2 mois de ça dans notre émission sur le mot « faux ». On l'a rencontré, on a parlé avec lui et il nous a tout expliqué ce qu'il comprenait du projet Hélicoptère.
Le pseudonyme lui-même a été inventé en 1998. À l'époque, c'était vraiment une période où moi j'écoutais beaucoup de musique électro allemande, puis des trucs un peu plus pointus. Puis il y avait cette vague de beaucoup de pseudonymes. C'est-à-dire, au fond, à chaque fois qu'on explorait un style, on avait un nom différent. Donc il y avait des types qui avaient 5-6 noms, etc. Et donc moi, c'était un de ces noms-là. On avait même fait des faux disques à l'époque. C'est-à-dire que c'était avec un ami qui s'appelle Eric Mattson. Et à l'époque, il avait le fantasme de créer un label. Et donc au départ, vers 1998, on a ouvert un site internet et il y avait des fausses pochettes. Des fois, on pouvait écouter un petit extrait parce qu'en plus, à l'époque, l'internet n'était pas très, très rapide. Mais on jouait sur l'esthétique d'un faux label, en fait. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Et Hélicoptère est le pseudonyme sous lequel j'ai commencé vraiment à inventer des musiques. Donc, c'était tout ce qui était plus expérimental, plus minimal, plus atmosphérique. Ça a donné le premier album en 2001, qui était vraiment un album ambiant, en fait, de musique ambiante. Et alors, là, je me suis laissé prendre au jeu. C'est devenu plus qu'un pseudonyme. C'est devenu une fiction. Et de fil en aiguille, j'ai été pris avec ça à travers les années jusqu'à aujourd'hui. Et je dois avouer que c'est ça, cette année, ça a été une année délicate pour Hélicoptère. Parce que je me suis retrouvé, comment dire ça, piégé moi-même, en fait. Au fond, c'est que tout simplement, le fait que le temps a passé, moi-même, je me suis penché sur l'histoire. C'est-à-dire, moi-même, j'ai eu un pas de recul, et un espèce de petit recul, et je me suis dit, OK, c'est ça l'histoire, j'ai inventé un nom, mais finalement, je voulais tellement que ce soit de la fiction, puis j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et donc, moi-même, j'étais pris un peu de vertige, en fait. Qu'est-ce que je fais après ça? Parce que, avant ça, j'ai eu toutes sortes d'idées depuis 2006. À un moment, je me suis dit, je vais faire un album vert, juste sur l'écologie. J'ai eu, après, un autre projet qui s'appelait Écosystème. Donc, il y a eu plein de projets avortés autour d'Hélicoptère, et c'était jamais tout à fait ça. Et plus ça se faisait pas, plus mon fantasme était grand. Et donc, plus c'était dur de faire quelque chose, une suite. Voilà, ça, c'est le résumé.
Mais la question de départ était, mais pourquoi oui, en avoir mis... mais c'est quand même intéressant. Mais pourquoi en avoir mis autant au lieu de juste prendre un deuxième nom? Qu'est-ce qui a amené vers, justement, cette démesure-là d'histoire jusqu'à te faire emporter toi-même?
C'est pour ça que je te dis que la question, je suis en train de la... Elle m'a amené jusqu'à au jour d'aujourd'hui, puis qu'elle était très difficile à trancher. C'est qu'au fond... c'est vraiment par rapport à mon histoire personnelle, c'est que j'ai étudié en cinéma, puis j'étais spécialisé en scénario. Et le lien entre tout ce que je fais, souvent, c'est les histoires. C'est mon amour de la fiction, et quelque part, Hélicoptère, c'était pour moi le moyen d'aller plus loin dans la fiction, aller dans des zones où je me serais peut-être pas permis d'aller là, juste sous mon nom. Donc, au fond, c'est mon si on traduisait Hélicoptère dans ma langue à moi, ce serait désir de fiction, en fait. Sauf qu'avec Le Vrai, Le Faux, justement, l'album Le Vrai, Le Faux, c'est comme si j'ai réendossé la fiction aussi en mon nom. Bref, c'est compliqué, hein? C'est un peu schizophrène comme histoire, là, mais...
Mais ce que je comprends, c'est que tu n'es pas capable de t'empêcher de raconter des histoires.
Oui, et que personnage ou pas, je m'aperçois que les histoires sont là et c'est peut-être la chose la plus importante pour moi parce que je ne suis pas venu à la musique parce que, par exemple, je ne me suis pas mis à chanter des chansons parce que je me disais « Ah, j'ai une belle voix ». C'est vraiment pas ça. J'aimais même pas ma voix, c'était juste un outil parce que j'avais des trucs à raconter.
Music automatic.
Bonjour, mon nom est Frédéric Malouin, je suis testeur de jeux vidéo depuis maintenant 5 ans, ce qui signifie que mon travail, aussi amusant puisse-t-il paraître, c'est de trouver les bugs, les erreurs, les choses qui marchent pas dans les jeux vidéo en général. C'est quoi un bug? Ben ça peut être toutes sortes de choses, en fait. Les bugs les plus communs, ceux qu'on va retrouver le plus souvent, c'est des erreurs graphiques. Des choses qui vont clignoter, qui seront simplement pas là. Du sang qui va sortir d'un arbre, si on tire dessus. Des choses comme ça. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être des bugs. Il y en a des plus sérieux. Parfois, le jeu va simplement arrêter de rouler.
Et comment on teste ça, justement? Comment on teste un jeu vidéo? Est-ce qu'on se trouve à jouer jusqu'à temps qu'on les trouve ou il y a une façon de jouer quand on teste un jeu vidéo?
Bon, jouer jusqu'à temps qu'on les trouve, ça s'appelle du ad hoc testing. C'est très rare et ça arrive vers la fin du projet, vers le moment où toutes les choses importantes ont pas mal déjà été trouvées, puis on est comme, ben, soyez créatifs. Avant ça, par contre, et c'est probablement le bout de la job qui dure le plus longtemps, et celui qui rend le plus ça une job, c'est qu'on a des tâches qui nous sont assignées. La tâche la plus ingrate, c'est de faire ce qu'on appelle un test de collision. Depuis qu'on est arrivé dans les jeux en 3D, il y a une chose très intéressante qui s'appelle la collision, qui définit qu'un objet X va avoir une collision avec le personnage que vous contrôlez lorsque les deux vont se rencontrer à l'écran.
Donc, personnage court vers le mur, rentre dans le mur.
Au moins, du moins, cesser le mouvement vers l'avant.
À tout le moins, cesser le mouvement.
C'est ça. Alors, un test de collision, là, ce que c'est qu'on vous donne une portion du jeu et on vous dit, cours dans tous les murs, saute sur tous les murs, saute sur tous les planchers, de toutes les hauteurs, à tous les angles. Essaye tous les angles d'entrée entre les coins des murs. La collision entre le plancher, chaque mur, les plafonds. Essaye de sauter par-dessus le plafond. Prends des objets dans le jeu, fais une cage d'escalier avec. Essaye de sortir du ciel. On se fait demander des choses comme ça. Et dépendamment d'où vous travaillez, vous allez peut-être faire ça dans la même chambre, dans la même pièce, dans le même bout de jeu pendant 1, 2, 3, 4 mois. Sans arrêt. Certains d'entre vous vont peut-être dire c'est pas une vie, là. C'est pas une vie. J'ai déjà vu quelqu'un devenir fou, littéralement, à cause de ça. Le gars est rentré un matin, je disais, s'il se reconnaît en entendant ça, on aimerait ça savoir que t'es en vie. Il est rentré, il s'est assis sur son ordinateur, il a eu le email qui décrivait ses tâches pour la journée. Il est allé voir son supérieur immédiat, puis il a dit, c'est quoi le email, je comprends pas, c'est juste des couleurs, puis ben,
il faut dire que ça faisait une éternité qu'il testait justement de la collision.
La collision, ça faisait déjà 2 mois et demi qu'il était dessus. Quasiment 3 mois, en fait.
Donc, on va voir le superviseur en disant, je vois juste des couleurs.
C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis il était encore sur collision. Fait qu'il va s'asseoir, puis il commence à faire ses affaires. Et puis nous autres, ça faisait déjà une couple de mois là, qu'on le voyait devenir de moins en moins stable, de plus en plus fâché en général, aigre. Et puis un moment donné, ben, après 5-6 minutes de travail, il s'est juste levé, il a commencé à hurler. Il est parti en courant et on l'a jamais revu. Il a jamais remis sa démission. On sait toujours pas à ce jour où il est. C'est un exemple un peu extrême.
Un peu.
Mais, je veux dire, c'est pas tout. J'ai déjà vu quelqu'un réclamer de la CSST en testant un jeu de danse parce qu'il fallait qu'il danse tout croche, puis il s'est pété à la gueule. Fait qu'il est parti du studio en ambulance, puis il y a eu de la CSST, là.
Et là, tu viens de dire danser tout croche, donc ça veut dire que, parce que tester un jeu, donc, c'est le jouer de façon non orthodoxe au cas où un joueur déciderait d'aller là pour pas qu'il tombe dans un no man's land. Et donc, quand c'est des jeux de bonhommes qui peuvent rentrer dans les murs, on fait ça. Quand c'est un jeu de danse, il faut le danser tout croche. Et quand c'est un jeu de karaoké, par exemple?
Un jeu de karaoké, ça, je peux pas rentrer dans les détails particuliers, mais j'ai déjà testé un jeu de karaoké. Et des fois, il fallait chanter vraiment mal. J'ai déjà chanté « Somewhere over the rainbow » juste pour savoir si j'aurais des points pareils. Et j'en ai eu des fois j'en ai pas eu, il fallait ajuster
donc,
certaines choses.
Un bug.
Mm-hmm. Une autre chose vraiment intéressante à faire, essayez de chanter oh 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 stay alive. Et pourquoi on fait ça? Parce que le logiciel était fait de telle façon que peu importe sur quelle octave vous prenez la note, si c'est la bonne note, vous êtes supposé avoir des points. Donc fallait aller tester les chansons très hautes sur les notes très basses et les chansons très basses sur les notes très hautes. Si vous êtes capable de faire ça puis que ça marche, ben c'est un peu à cause de nous parce que on est supposé tester ça. Autre chose très intéressante, j'ai chanté presque chaque soir pendant environ 2-3 mois la chanson I'm Every Woman de Whitney Houston, parce que c'est une chanson assez demandante et c'est pas tous les testeurs qui sont capables de pousser la note au mode expert, qui est assez difficile là. Mettons qu'il faut chanter juste pour avoir une bonne note expert. Il fallait avoir une note parfaite dans toutes les chansons sur toutes les plateformes. Ben, comme on peut pas être une personne à faire trois plateformes à la fois, ben faut que quelqu'un fasse I'm Every Woman une ou deux fois par soirée. Et ben moi, j'étais très bon pour chanter I'm Every Woman, ce qui signifie que une fois par soir, pendant 2 mois et demi, j'ai fait I'm Every Woman, it's all in me. Anything you want done, baby, I'll do it naturally. Je m'attendais pas à ça quand j'ai commencé à travailler là-bas.
Ben oui, le tester de jeux vidéo semble être un travail de rêve.
Le moment parfait pour prendre contact avec sa Whitney Houston intérieure.
Vous êtes toujours à l'écoute de Dans le champ lexical et on est toujours en train de faire le tour de nos moments préférés de la saison en cours. Dans ce qu'on vient d'entendre, c'était Frédéric Marloin qui testait au péril de sa vie des jeux vidéo. C'était pour le mot « erreur » et pour le même mot « erreur », on avait demandé à Xavier Kromstrom-Richard de nous parler de sa collection d'erratums. Le gars collectionne les erratums de journaux. Ça a donné ceci.
J'ai commencé à collectionner les erratums des journaux imprimés il y a à peu près 2 ans. Au début, je déchirais les pages des journaux, je les amassais en pile dans un coin. Puis bon, comme ils prenaient la poussière, j'ai décidé de les scanner puis d'en faire un blog. Mon blog s'appelle erratum.tumblr.com, erratum avec 3 R. Sur ce blog-là, on retrouve de tout, puisé dans les journaux que je lis surtout. Donc Le Soleil, Le Devoir, La Presse, The New York Times. Dans la catégorie « Erreur sur la personne », parue dans le Devoir du 20 novembre 2010. Dans l'entrevue de Patrick Sénécal la semaine dernière, la citation « Je ne suis pas convaincu que c'est une façon sérieuse de gagner sa vie, de raconter des histoires » aurait dû être attribuée au romancier britannique Neil Gaiman. Toutes nos excuses. Dans la catégorie « Biz », parue dans un texte de Vincent Marissal de La Presse du 30 avril 2011, j'ai attribué erronément à Biz, le chanteur de Locolocas, la déclaration voulant que Jack Layton parle le français comme un vendeur de chars usagés. Biz m'a poliment fait remarquer que cela ne venait pas de lui, mais de Batlam, un de ses collègues du groupe, mes excuses pour la méprise et ses conséquences désagréables. Dans la catégorie « Poulet », parue dans le New York Times du 8 décembre 2011, à la suite d'une erreur d'édition, une critique du restaurant Paul Petina, situé dans le quartier East Chester de New York, a décrit une entrée de poulet de manière incorrecte. Il s'agissait d'un demi-poulet cuit et non d'un poulet à demi-cuit. Dans la catégorie échec, toujours dans le New York Times, paru le 26 février 2012, la section échec de dimanche dernier sur Justin Sarkar, un New Yorkais champion d'échecs, a donné une fausse information à propos de son récent match contre Adam Hunt. Le 8e coup des Noirs est H6 et non H4. Avec le temps, j'ai pu déceler des pratiques. À la presse, par exemple, les erratums sont appelés précisions. On peut en lire à l'occasion, mais jamais au même endroit. Tandis qu'au Devoir, on utilise le terme « erratum » et ceux-ci sont souvent situés à l'endos du cahier A. Au New York Times, l'erratum, c'est plutôt une culture. Le journal reçoit 14 000 signalements d'erreurs factuelles par année, c'est énorme. Une étude de l'Université de l'Oregon a montré que les articles publiés par 14 des plus grands journaux américains contiennent des erreurs factuelles dans une moyenne de 61%. 61% des articles, donc, contiennent des erreurs. Sur ce nombre-là, 2% sont corrigés seulement dans les pages des journaux ou sur le site web, en raison, parfois tout simplement, de la difficulté qu'ont les journaux de vérifier les faits exacts. L'Association des scouts d'Italie a-t-elle été créée en 1943 ou en 1944? C'est assez difficile à dire. Ce qui est plus facile à dire et plus facile à faire, c'est de se partir un blog, probablement, un blog d'Eratum, par exemple. Enfin, pour le temps qu'il restera à lire des journaux imprimés.
Sur le mot normal, on avait demandé des textes et des témoignages à plusieurs personnes, dont Myriam Dagouzan-Bernier, qui nous livre ici sa définition de la normalité.
Normal, c'est entre l'ennui puis la légère satisfaction que tout est correct. C'est le vertige qui te pogne quand tu te dis « Hey, ma vie est normale. » Genre, il n'y a rien de croche ou il n'y a rien de bizarre en ce moment. C'est comme une bouffe dans un resto où tu sors avec une face de personne pas convaincue, mais quand même un peu rassasiée. C'est la fois où t'as reçu une poupée Barbie de ta grand-mère à Noël, puis que c'était pas une vraie de vraie, mais plus une vague copie. Elle était pas belle, ni laide. Elle était juste vraiment normale. C'est pas positif, ni négatif. C'est juste entre les deux. C'est quand ta face arrive pas à statuer entre un air vaguement déçu et un sourire subtil. C'est faire une soirée entre amis où ça lève pas, mais où c'était pas plate non plus. C'est aller à l'hôpital parce que tu files pas trop, puis t'espères te faire dire « c'est ça qui cloche, c'est ça qui marche pas », mais où on te répond « non, non, tout est beau », puis toi, tu restes pogné avec ton stress. Normal, c'est l'affaire que tu te demandes toujours « c'est qui a décidé de ça? » Être normal, c'est pas faire de remous, c'est être tranquille dans son coin puis se fondre dans la masse. C'est prendre son Ritalin, son lithium, ses antidépresseurs, ses hormones. C'est pas être célibataire trop longtemps. C'est jamais montrer sa colère, puis la garder en dedans jusqu'à ce que t'éclates. C'est une journée où il y a pas de rush à ta job, puis ça te déstabilise. C'est regarder la télévision se matantiser de plus en plus, puis hausser les épaules, doucement, puis même trouver ça pas pire, des fois. C'est le dernier gars dans le bar que tu prendrais pour un one night. C'est un statut Facebook pour lequel t'espérais des likes, mais que personne ne semblait voir passer. C'est une blague que tu recommences 2-3 fois en tentant de te joindre à une conversation dans une gang que tu connais pas trop, mais que personne ne semble accrocher à ton histoire. C'est ce qui flirte avec le malaisant puis l'ordinaire. C'est ce qui te laisse sur ta faim ou c'est ce qui calme tes ardeurs. C'est taire la crétinerie puis l'incompétence au travail parce que, voyons donc, dis-le pas, tu vas perdre ta job? C'est une taille qui existe nulle part dans les magasins de linge. Normal. C'est bien des affaires, en tout cas. Mais je pense que c'est juste pas moi.
L'émission Dans le champ lexical vous revient tout de suite après ces quelques publicités.
En attendant, vous pouvez toujours aller devenir notre ami sur Facebook ou nous jaser ça sur Twitter au @danslechampl.
Si l'émission de cette semaine vous ennuie, allez sur notre site danslechamplexical.com et téléchargez une de nos émissions précédentes, potentiellement plus intéressantes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre balado.
Vous êtes toujours sur les ondes de CIBL 101,5 FM. On vous revient dans quelques instants.
vous écoutez toujours dans le champ lexical, l'émission qui, cette semaine, ne tourne pas autour d'un mot, juste pour faire changement. Non, on se promène plutôt à travers les archives de la saison qu'on est en train d'essayer de terminer. Il reste maintenant 5 ou 6 émissions. Et pour vous passer donc les moments qu'on a préférés. Et dans le champ lexical, c'est l'occasion pour toute l'équipe de rencontrer des gens qui ont des histoires extraordinaires, qui ont des métiers peu communs, qui font des drôles de choses. Et cette année, Joanie a pu parler avec un avaleur de sabres. Quelqu'un qui avale des sabres. Hein? Le nom du métier le dit pas mal. Et quand tu rencontres quelqu'un qui fait ce genre de choses, c'est inévitable. La première question qui te vient, c'est « Et pourquoi on commence à faire ça? »
Si tu arrives à un moment donné qu'il y a un loyer à payer, puis tu te dis « comment je vais faire? » Non, sans blague, ça m'est arrivé parce que j'ai lu un livre, puis j'ai tombé là-dessus, puis je me suis dit « Tiens, j'ai jamais vu ça live. » Je me suis mis à informer. Il n'y avait personne qui faisait ça. Je me suis mis à entraîner, puis le faire.
Comment est-ce qu'on s'entraîne?
C'est dangereux? Oui, c'est très dangereux. C'est ça, c'est des techniques de yoga, c'est beaucoup de connaissances d'anatomie. Je m'appelle Ishwan Betchiar, et je suis leveleur de sabre et avaleur de feu avec Blue Mushroom.
Et puis moi, je suis Miss Bon Bon Bombay, et puis je suis la maîtresse de piste. Je marche sur de la vitre cassée, je suis une artiste de burlesque international. Et puis c'est ça, je suis membre de la troupe de Blue Mushroom Circus Psy Show. C'est moi qui gère la troupe, c'est moi qui introduis les freaks, qui introduis les numéros, qui essaie de garder tout le monde en ligne.
Tu viens de dire toi-même les freaks. Comment est-ce que vous vous définissez?
On se définit un peu, c'est freak show, cabaret, vaudeville, ancien cirque.
Le freak, c'est un peu le terme traditionnel pour ce genre de show-là. Dans les freak shows antérieurs, il y avait vraiment le monde né avec des anomalies, un monsieur à deux têtes, monsieur à trois jambes, une grosse femme, des trucs comme ça. Mais il y avait aussi des numéros, des freaks travaillants. Comme des avaleurs de sabre. Ou... C'est une façon de dire hors le normal, hors le traditionnel. Il y a un homme fort qui fait des prouesses traditionnelles d'homme fort, mais aussi des nouveaux développements.
Il est en développement,
c'est sûr qu'il y a des nouveaux trucs que tu trouves et d'autres trucs que tu ne trouves plus.
Des fois, on se fait mal, puis on doit changer d'idée, puis faire quelque chose d'autre.
Par contre, il déchire un bouton de téléphone en deux. Si tu as déjà essayé ça à la maison, c'est très dur. Mais je te dis un nouveau truc, parce que là, des bouteilles de téléphone, c'est de plus en plus dur à trouver. Le monde, il fait ça sur Internet. Fait que là, il fait quoi, tu sais?
Il déchire un laptop?
J'espère que non. Non, mais tu vois, t'es toujours obligé... quand même développer des nouveaux trucs. Mm-hmm. Par un accident qui est arrivé, il a découvert qu'il passe si mal avec l'électricité, fait que là, il s'assoit sur une chaise électrique.
Oh mon Dieu!
Il a tout un nouveau numéro avec ça, c'est quand même très bon.
Mais vous, est-ce que vous êtes déjà blessé?
Oui.
Oui.
Ouais. Moi, je me suis coupé les pieds parce que je marche sur de la vitre cassée puis je saute dans la vitre cassée. Alors, je me suis coupé les pieds une couple de fois. Et puis, sur les lits de clous, je me suis déchiré les bras durant un spectacle. Mais je veux dire, d'une façon, c'est comme un peu... ça me dérange pas parce que c'est comme les gens, là, quand ils te voient saigner sur scène, ils réalisent, c'est vrai ce qu'ils font, là. Tu sais, c'est pas des farces. C'est tout ce qu'on fait, c'est on s'entraîne, on s'habitue, on essaie de se bâtir un armor sur notre corps pour continuer. Puis c'est ça.
Et toi, tu t'es déjà blessé?
Oui, à plusieurs reprises.
À l'intérieur de
oui, à l'intérieur, bien sûr. Mais another day, another dagger. Moi, je me trouve normal.
Tu trouves normal?
Je trouve que c'est la plupart du monde qui sont pas normal.
Ah, bien dit.
Non, mais... Tu sais, tu prends par exemple... C'est sûr, OK, c'est pas habituel de voir quelqu'un s'enfoncer une épée dans la gorge. Par contre, c'est très vieux. Il date de 5000 ans, au moins. 5000 ans écrit, là, t'sais, mm-hmm. des pyramides en Égypte, avec des, ils parlent des avaleurs de sable. C'est vieux. Le monde qui faisait ça à l'époque, ils faisaient ça pour montrer leur foi en Dieu ou en quel que ce soit qu'ils ne vont pas crever, quoi.
Et toi?
Ben, je suis très conscient que je fais face à la mort à chaque fois que je le fais. Ben, c'est normal, la vie. C'est normal de faire face à la mort. C'est pas normal comme on fonctionne aujourd'hui. On n'est pas conscient de la mort. T'sais. À chaque fois que tu quittes ta maison, tu peux te faire tuer par un char ou par un fou avec une carabine ou un accident par rapport. T'sais. On sait jamais. T'sais. On s'en va à l'épicerie acheter un poulet qui est dans un styro en cellophane. C'est pas normal. T'sais. C'est normal de tuer ton propre bouffe. T'es conscient que c'est une vie. T'es conscient. C'est pas normal de pas faire face à la mort.
Ma mère est pas contente avec qu'est-ce que je fais avec ma vie en ce moment là, tu sais. Elle trouve pas ça normal. Mais mon père, lui, c'est comme, c'est cool parce que je vis ma passion puis je fais ce que je veux. Alors, c'est ça.
Durant la saison à Dans Champ Lexical, on a reçu Sonny Duval qui est venu nous raconter la musique du sud des États-Unis, en fait les origines du country, bluegrass et rock'n'roll. Et ensuite, on a eu la chance d'avoir de sa part une petite performance. Voici donc Sonny Duval qui joue Johnny Horton.
Ça marche?
I'm a honky-tonk man and I can't seem to stop. I love to give the girls a whirl to the music of an old jukebox. So when my money's all gone, I'm on the telephone singing, hey, hey, mama, can your daddy come home? A pretty little girl and a jug of wine, that's all it takes to make a honky-tonk mine. With the jukebox moaning, a honky-tonk sounds, I can't wait to lay my money down. Cause I'm a honky-tonk man and I can't seem to stop. I love to give the girls a whirl to the music of an old jukebox. And when my money's all gone, I'm on the telephone singing, hey, hey, mama, can your daddy come home? I'm living fast and dangerously, but I got plenty of company. With the jukebox moaning, a honky-tonk sound, I can't wait to lay my money down. Cause I'm a honky-tonk man and I can't seem to stop. I love to give the girls a whirl to the music of an old jukebox. When my money's all gone, I'm on the telephone singing, hey, hey, mama, can your daddy come home?
Mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ou 9 ans. Fait qu'un dimanche soir sur deux, vers 20h, j'embarquais avec ma sœur dans la camionnette de mon père et on partait vers chez ma mère. La fin de semaine de garde de papa était finie, il était temps de rentrer à la maison. 26 fois par année, pendant 7 ou 8 ans, ça devient ordinaire. À la radio, les postes en profitaient pour remplir les fameux quotas de musique francophone, ils diffusaient des medleys. Je me souviens m'être souvent dit qu'il y avait quelque chose qui marchait pas là-dedans. Une chanson qui avait juste deux couplets, trois refrains, non seulement c'est un peu court, mais il manquait le couplet dont je connaissais justement quelques paroles. À cause de la radio, et aussi parce que ni mon père ni moi sommes d'un naturel jasant, on parlait pas vraiment durant le trajet. Ma sœur, elle dormait, elle s'endort toujours dans le transport. Par conséquent, le trajet du dimanche était un moment de flottement un peu bizarre. Il est 21h et par la fenêtre, je regarde passer les rues à moitié vides de Montréal le dimanche soir. Ajoutez de la slotch ou de la pluie, vous avez la recette parfaite pour un moment de déprime. Puis une fois arrivé chez ma mère, on embrassait mon père. Bye bye, à dans deux semaines. Pour nous, c'était une arrivée. On était de retour dans nos affaires. Pour lui, c'était un départ. Bye bye, à dans deux semaines. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'être un papa de fin de semaine. Depuis maintenant 9 ans, je dois faire le même exercice que mon père faisait. Laisser partir quelqu'un que je voudrais plutôt garder collé contre moi tout le temps. Père à temps partiel, c'est un travail d'abnégation. On donne, et souvent on n'est même pas là pour voir le résultat.
Des rats! Des rats! Des rats! Des rats! Ah! plus après.
Ok. Ah, tu le prends? Ok.
Imaginez, pendant deux soirs et deux jours, vous avez ça qui gazouille dans votre maison. Mais vous ne pouvez pas la garder, parce que vous comprenez qu'elle est mieux ailleurs, vous avez fait le choix. Non, c'est correct, tu peux partir, je vais même te faire un sourire en partant. Il n'y a pas un père qui voudrait traumatiser ses enfants en pleurant et en morvant sur eux pendant le câlin de babaye. Alors on sourit, on les aime fort, 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 on va les revoir bientôt. Les enfants pleurent rarement quand ils retournent chez leur mère, ils sont contents de la revoir. Ils passent simplement à la prochaine chose sur leur liste, à être chez eux. Papa, lui, ça arrive qu'il pleure une fois la porte refermée. Surtout au début, avant de s'être habitué à ce qui manque un gros morceau dans sa vie. Et papa pleurait peut-être même un peu plus encore s'il n'y avait pas à refaire le trajet en sens inverse vers chez lui. On retourne dans l'auto, on écoute la radio, on roule dans les rues vides de Montréal un dimanche soir. Ça crée une zone tampon avant de retourner à notre vie de papa sans enfant. Ça nous fait à nous aussi un genre de retour à la maison qui cache le fait que pour les deux prochaines semaines, notre enfant va nous quitter à tous les jours. À chaque jour, on va penser à lui. Et on va le laisser partir. Je me fais pas d'illusions non plus, ma fille pense pas vraiment à moi pendant la semaine. Avec l'école, les amis, les devoirs, la vie en général, il reste plus beaucoup de place dans la vie d'un enfant pour penser à son père qui est pas là. C'est correct. On sourit, on l'aime fort, fort, fort. On va la revoir bientôt.
Un petit poisson dans un bocal. Je veux voir sourire ton petit bec sale. Demain matin, sur son cheval, papa s'en va à Montréal. T'es un soleil dans une maison, mon beau petit singe en canisson. Donne-moi un gros bec, colle-moi fort, fort. J'suis mal habillé, fait fret dehors. Je le sais plus comme avant, entre papa et maman, j'ai du mal à t'expliquer. Y'a des petites cloches qui sonnent dans ma tête qui résonnent. Tu vas percer des dents. T'es une souris parmi les rats. T'es une brisure de chocolat. T'es un oiseau qui fait cuit-cuit. Mon beau petit mongol à la batterie. T'es le prince d'un monde sale. T'es une fleur dans l'asphalte. Tu pousses vite, ça n'a pas d'allure. D'être grand pour toucher le firmament. T'es le cosmos grandeur nature. Tu me suis plus là? C'est sûr. T'es un gâteau des anges cornus. T'es du crémage sur mon vécu.
sous une casquette. T'es un bonheur en trottinette.
Notre émission sur le mot quartier, on avait demandé à toutes sortes de personnes qu'est-ce qu'il y avait dans leur quartier qu'il n'y a pas dans les autres. Et on a approché Daniel Grenier, auteur de Malgré tout, on rit à Saint-Henri, pour avoir la réponse. Qu'est-ce qu'il y a dans Saint-Henri qu'il n'y a pas dans les autres quartiers? Sa réponse?
Okay.
L'échangeur Turcot.
Donc ça va comme ça. Moi, dans mon quartier, j'ai un infra-quartier caché en dessous d'un ultra-échangeur, la seule structure humaine qu'on peut voir de l'espace, il paraît. Ce qui est bizarre avec Saint-Henri, c'est que tu connais pas vraiment Saint-Henri si tu connais pas le mini Saint-Henri caché dans Saint-Henri, dans le coin, quasiment en dessous de l'autoroute. La première fois que tu rentres dans le village des tanneries, t'as l'impression d'avoir pénétré quelque part, d'avoir franchi une frontière, d'être à la fois dans le cœur de ce que ton quartier veut dire, et en même temps d'être en périphérie. Plus tout à fait chez toi, comme ailleurs, ou plutôt chez quelqu'un d'autre. Enclavé entre l'échangeur au nord, la traque de chemin de fer au sud, le viaduc Saint-Rémy à l'ouest et la rue de Courcelles à l'est, le village des Tanneries, c'est à peine trois rues dans le fond du quartier, dont deux dans l'axe nord-sud ne débouchent rien d'autre que la voie ferrée du CN au sud et sur un sentier piétonnier où les gens ont aménagé des jardins communautaires plus ou moins entretenus. Les Tanneries, t'en as entendu parler si t'as suivi un peu les nouvelles à propos de la future réfection de Turcot. À Saint-Henri, on voit souvent la petite affiche « Échangeur Turcot » dans les fenêtres des apparts. En lettres majuscules, avec le « e » et le « u » d'échangeur en minuscules, ce qui donne, si tu sais lire, « Changer Turcot ». Mais ces affiches-là, on les voit nulle part autant que dans les tanneries, parce que c'est sur eux que retombe la suite des automobiles de l'autoroute, et c'est eux qui pourraient se faire délocaliser si la ville décidait de tout démolir en même temps que l'immense structure de béton. C'est supposé arriver un jour ou l'autre. D'un jour à l'autre, ils vont faire tomber l'échangeur et on va se retrouver avec un horizon couvert de grues et de pelles mécaniques pour 10 ans. Des fois, je me demande si ça va affecter mon quotidien autrement que par la vue. Est-ce que le canal La Chine va être bloqué? Est-ce que la piste cyclable va être praticable durant ces années-là? En me promenant dans les tanneries l'autre jour, j'ai demandé à un vieux couple qui fumait sur une galerie rue Cazelet si, d'après eux, les blocs allaient être rasés. « Non, non, y a rien qui va tomber ici, fais-toi sur moi. » C'est tout centenaire, ces blocs-là. Ils toucheront pas à ça, que le vieux m'a dit. Et la vieille. Il y a juste le loft, là, qui va tomber l'autre bord de Saint-Rémy. Ici, ils toucheront pas à rien. C'est tout protégé. On est allé à Québec pour les niaiser. Je leur ai dit, vous allez démolir les cours en arrière, puis vous allez laisser les façades des blocs, c'est ça? Ils l'ont pas trouvé drôle, mais ça les a fait réfléchir. Moi, j'ai dit, ouais, j'imagine, fait que le plus gossant, ça va être le bruit pour vous autres. Bon, on est habitués, il y a rien là. Puis en plus, ça commencera pas avant 2017, ces travaux-là. Il faut tout qu'ils revoient les plans, puis le projet que la ville, puis le ministère. Ils en ont encore pour un crisse de bout. On a ri, j'ai redemandé juste pour être sûr. Fait que personne va être exproprié ici. T'es-tu malade? Personne part d'ici. Je me demandais si c'était officiel ou si c'était juste de la pensée magique de sa part. Mais je savais pas comment poser la question sans avoir l'air d'insister, sans paraître impoli ou insensible. Fait que j'ai juste dit merci et j'ai continué à marcher. Chaque fois que je me balade dans le village des tanneries, je passe vite, je sais pas pourquoi. Il y a un pseudo-effet de communauté à cause des panneaux indicateurs qui disent « Bienvenue » au-dessus d'un graffiti, et bornes sales. Un effet communautaire qui frise le renfermement, qui est mitigé par le fait qu'on a l'impression qu'un effort de revitalisation a été entamé, mais qu'on a abandonné en cours de route. Les jardins sont laissés à l'abandon. Les vieux bâtiments sont sales à cause de la pollution qui descend de la 720. Il manque de lampadaires dans les rues. Tout le monde conduit des Dodge Shadow ou des Pontiac 6000 argentés. Tout le monde porte des manteaux mauve fluo avec des stripes jaunes puis des running shoes Daou 501 achetés au Pit sur Notre-Dame. Ah non, c'est vrai, le Pit a fait faillite l'année passée. J'aime ça passer par les tanneries quand je marche dans le quartier, mais chaque fois je passe vite. Comme si j'étais pas le bienvenu. Comme si, même si j'habite pas dans un condo de la rue Saint-Ambroise, j'étais quand même un symbole de la gentrification de Saint-Henri, comme si j'étais un intrus avec mon regard universitaire fasciné par les vieilles briques se détachant sur le fond du béton de Turcot. L'échangeur, lui, il va tomber un de ses quatre, mais pour l'instant, il trône encore. Pas encore solide, mais toujours imposant. Il fait jaser et écrire. Il y a un concours littéraire organisé cette année qu'il prend pour thème. L'imaginaire de l'échangeur turco, ça s'appelle. C'est fait pour ceux qui pensent avoir des belles choses à dire sur une des choses les plus laides au monde. Pour ceux qui aiment haïr les choses laides qui défigurent leur quartier, mais qui vont s'ennuyer du ronronnement des voitures une fois que les boulets de démolition vont se pointer.
Quand est venu le temps de parler du mot « eau », on est allé voir quelqu'un qui entend les bateaux d'une façon, disons, spéciale.
L'eau, c'est conducteur de son. Enfin, on s'est baigné souvent sur le bord de l'eau, et quand il passe un bateau, on met la tête dans l'eau puis on entend le sillage de l'hélice dans l'eau. Avec des bonnes oreilles, tu me diras, oui, peut-être. Mais on entend à forte raison aussi les vibrations d'un moteur dans une coque de bateau, qu'elle soit vide ou pleine, ça doit faire une différence. Bien, les basses fréquences se répercutent. Alors, mon oreille s'est entraînée à entendre pour le plaisir et pour... C'est devenu un entraînement.
Claude Bélanger, chanteur classique. Il vit à Saint-Michel-de-Bellechasse sur le littoral du Saint-Laurent. Il a l'oreille absolue, c'est-à-dire qu'il est capable de déterminer la note de musique produite par n'importe quel son.
Ben, les barges de lac, c'est des moteurs extrêmement puissants. Là. C'est gros comme un petit bloc appartement. Il y a un son, c'est une vibration mi bémol. J'ai une mi bémol dans la tête. Là. Ça... Je l'entends au travers de la maison.
Comme vous l'avez entendu, Claude Bélanger ne se sert pas de son oreille que pour la musique. Il y en a qui prennent des jumelles pour regarder le fleuve et les bateaux qui passent. Lui, il utilise ses tympans pour prendre le large.
Le son de la coque qui frôle l'eau, ça aussi, c'est le froufrou de l'eau sur la coque. Ça, on le perçoit quand on fait de la voile, parce que c'est le vent qui nous propulse et ça nous parle. Alors, il y a les moteurs de bateau, oui, c'est une chose, mais il y a aussi le déplacement d'un bateau sur l'eau. Et l'hiver, on perçoit, quand les bateaux frappent les glaces, on peut entendre ça. Et ici, ça arrive fréquemment qu'il y a un bateau qui va à l'ancre, se préparer pour passer quelques jours à l'ancre parce qu'il y a une aire d'ancrage. Et là, on entend le son des chaînons qui passent, de la chaîne qui passe sur la coque jusqu'à boum, 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 boum. On entend la mise à l'eau de l'ancre.
Dans son salon tourné vers le fleuve, Claude Bélanger peine à entendre le silence. Son écoute est absorbée par la circulation fluviale, surtout par le grand sifflet grave qui alarme et charme Claude. La corne de brume.
Les cornes de brume, c'est savoureux. Les sons, et encore là, les sons. Parce que les cornes de brume, moi, j'entends les notes. alors ça va être un do dièse ou ça va être un sol. Puis quand il y a deux bateaux qui vont se rencontrer, ils ont l'habitude d'actionner la sirène.
C'est ce qui conclut cet épisode de Dans le champ lexical. Pendant l'émission, vous avez pu entendre les voix ou les créations audio de Joanie Larue, Sarah Champagne, Christiane Campagna, Nancy Cahouette, Xavier Cromstrom-Richard, Myriam Dagouzan-Bernier, Daniel Grenier et Mathieu Charlebois. Il ne nous reste plus que 5 émissions avant la fin de la saison et la semaine prochaine, on s'attaque au mot « mur » en espérant ne pas en frapper un. D'ici là, vous pouvez toujours aller sur notre site web www.danschamplexical.com, nous retrouver sur Facebook ou nous suivre sur Twitter. Et puis sinon, restez sur les ondes de CIBL. Il y a toujours de la bien bonne radio, là.